toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 septembre et aujourd'hui au menu de cette émission, on va parler de la conférence autour du harcèlement scolaire organisée demain soir par l'UDAF 53. Se profile aussi en cette fin de semaine la 30e fête de la science. On en parlera justement avec mes invités aujourd'hui, Claire Duquesnois et Guillaume, je ne retrouve plus votre nom Guillaume, en tout cas qui est médiateur au Zoom, on l'entendra tout de suite. Et puis le feuilleton mercredi, on poursuit le feuilleton autour du grenier à Majdaillé et on verra en quoi c'est un lieu participatif et collectif aujourd'hui. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Un accident de car impressionnant à La Pèlerine, plus de peur que de mal hier. Seuls 3 enfants ont été très légèrement blessés alors que leur car est tombé dans le fossé sur la départementale 158. Au total, 22 enfants ont été pris en charge dans une salle communale à La Pèlerine. L'une d'elles a été transportée au centre hospitalier de Laval et 2 adolescents de 13 et 14 ans ont été conduits à l'hôpital de Fougères. La Mayenne repasse en rouge selon les derniers chiffres de l'ARS concernant l'épidémie. C'est le seul département de la région à avoir un taux d'incidence légèrement supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants, avec 15 personnes hospitalisées dont une en réanimation. 5 personnes poursuivies après leur intrusion au lycée Robert Buron à Laval. Il s'agit de 3 jeunes majeurs convoqués devant la justice au mois de novembre. Ils sont accusés d'avoir participé à une bagarre dans l'établissement le 20 septembre dernier. 2 autres jeunes mineurs seront bientôt convoqués devant le juge des enfants pour une éventuelle mise en examen. Le débrayage à l'école d'infirmières en pause. Ils étaient 9 salariés sur 10 à faire grève à l'IFSI de Laval depuis début septembre. Ils s'estiment oubliés du Ségur et réclament une revalorisation salariale. Mais les débrayages donc s'arrêtent en attente de décisions nationales sur la question des salaires. Un concert avec le 6x4 à Entrammes ce week-end avec Johannes. Showcase et rencontre prévues donc samedi à 17h à la médiathèque. Johannes est multi-instrumentiste et pose sa voix entre cordes acoustiques et électroniques des machines. C'est gratuit sur réservation au 02 43 69 03 59. Pour que le harcèlement scolaire ne soit plus tabou, une soirée sur le sujet est organisée demain soir par l'UDAF 53, l'Union départementale des associations familiales, avec des témoignages mais aussi l'intervention du directeur académique de la Mayenne, d'associations de parents d'élèves, de la défenseur des droits et du sénateur Guillaume Chevrollier. Un premier rendez-vous dédié à ce sujet brûlant, présenté par Odile Gombeau, la présidente de l'UDAF 53.
Non seulement c'est un sujet absolument d'actualité, mais parce que nous avons été sollicités par beaucoup de parents, d'éducateurs et entre autres aussi par des élus et par monsieur le préfet qui souhaitaient que nous puissions organiser une conférence sur ce thème du harcèlement scolaire qui est encore, je dirais, mal connu et encore d'une certaine façon tabou.
Alors là, l'idée, c'est d'inviter Jonathan Destin, donc, qui sera là pour justement témoigner, puisque lui-même a vécu cette situation.
Lui va donner donc son témoignage, puisque en effet, il a été harcelé de l'âge de 10 ans à 16 ans, et la seule issue pour s'en sortir, malheureusement, il s'est donc immolé. Il ne voyait que la mort comme issue, et heureusement, il en est sorti, et maintenant, il a 23 ans, et il témoigne dans toute la France, puisque il va dans les collèges, dans les lycées. Et d'ailleurs, en Mayenne, il va intervenir jeudi après-midi à la MFR, la Maison Familiale Rurale de la Pingrie. Et vendredi matin, toute la matinée, il sera au collège Fernand Peuèche, où il interviendra en classe de 3e et classe de 4e. Alors, ça touche tout le monde. Et puis, au niveau certainement des parents et surtout scolaires, même les grands-parents, je connais un cas où finalement l'élève ne pouvait pas se confier à ses parents et finalement c'est à ses grands-parents qu'elle s'est confiée, qu'elle était victime de harcèlement. On s'est rendu compte que le harcèlement, je ne sais pas s'il y en a plus qu'autrefois, mais du moins il utilise ses réseaux sociaux. Mais il y avait, avant, il ne faut pas se faire d'illusions, également du harcèlement scolaire. La Ligue de l'enseignement me disait ils ont aussi des projets, une mallette, je crois, pédagogique pour aider justement les éducateurs, les enseignants, vous voyez. Voilà, il y a plein de choses.
Divers projets aussi avec l'éducation nationale. La table ronde est gratuite demain jeudi à 20h à la salle de l'escapade à Argentré. Inscription conseillée au 02 43 49 52 65. Vous pouvez aussi, si vous voulez, y assister en visio en appelant à ce même numéro pour obtenir le lien. On va parler d'ici 3 minutes d'un anniversaire, celui de la fête de la science, mais ça ce sera après The Lehman's Brothers avec MN. The Lehman's Brothers dans l'AJT du local sur l'autre radio. Et comme promis avant la petite pause musicale, on va justement souffler des bougies, celle de la fête de la science qui fête aujourd'hui, ça fait beaucoup de fêtes ça, qui a donc 30 ans cette année en tout cas. Elle commence ce mercredi, ça se poursuivra jusqu'au 11 octobre. Et pour en parler aujourd'hui avec moi en studio, Claire Duquesnois, chargée de coordination au Zoom à Laval, et Guillaume Seguin, cette fois-ci je n'oublie pas votre nom, médiateur au Zoom. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, ça y est, cette 30e fête de la science, peut-être déjà rappeler un petit peu ce que c'est que cet événement donc, qui est là depuis 30 ans et qui aujourd'hui reprend, on va dire, toutes ses couleurs après une édition Covid un petit peu limitée, Claire.
Alors c'était une édition un peu particulière l'année dernière, donc on est plutôt content que les 30 ans tombent cette année et pas en 2020. Alors pour le coup, la fête de la science, c'est un événement qui est national, on trouve ça sur tout le territoire français. Et y compris en Mayenne. Et ça commence le 1er octobre et ça dure effectivement jusqu'au 11 octobre. Donc l'idée, c'est vraiment de découvrir les sciences, donc vraiment les sciences et non pas la science, puisqu'elles sont hyper nombreuses. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines différents. Et c'est ce qui fait que chacun peut y trouver en fait des choses qui l'intéressent et qui le concernent, puisqu'on vit dans la science au final, dans les sciences.
En tout cas avec un thème cette année qui là aussi est assez large, puisque cette année ce qui est à l'honneur c'est l'émotion de la découverte. Est-ce que ça vous a directement inspiré, Guillaume?
Alors effectivement c'est très très large. Après nous dans la conception de l'atelier on essaye à chaque fois de faire quelque chose de différent. Et cette année on a voulu faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore sur les illusions. Alors on peut effectivement lier cette thématique à l'émotion de la découverte, surtout aux émotions, parce que le but c'est justement de créer certaines émotions sur certaines petites expériences qu'on va faire au public.
qui est en lien peut-être avec l'exposition qui est toujours en cours au Zoom Gili Gili ou pas du tout?
Alors non, on ne s'est pas forcément fié à l'exposition pour le faire, car l'exposition est vraiment pour les tout petits. Donc là, on a essayé de vraiment viser le grand public, entre guillemets, qui est celui qui vient à la Fête de la Science, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, tout le monde donc est bienvenu sur notre centre.
Donc un stand qu'on pourra retrouver au village de la Fête de la Science ce week-end. Tout ce week-end, c'est au Laval Virtual, si je ne dis pas de bêtises. Et il y aura peut-être encore plus même de partenaires que les années précédentes. Qui est-ce qu'on pourra retrouver de nouveau qui propose des animations ce week-end?
Alors, de nouveau, par rapport aux éditions précédentes, on a certaines associations étudiantes de l'ESTACA, de nouvelles. Et on a, je tiens à le dire, on a le lycée Douanier-Rousseau, donc des élèves du lycée Douanier-Rousseau, qui sont des bêtes de concours, qui remportent plein de prix et qui participent cette année au Village des Sciences, qui ont le projet « Comment faire geler une... Peut-on faire geler une bulle de savon ?» une grosse thématique scientifique et on est super content de les avoir, ainsi que les autres porteurs de projets habituels qui nous sont toujours fidèles et qui vont proposer à nouveau des stands vraiment de qualité, ça promet.
Donc des stands de qualité, et là aussi on est sur bien la fête des sciences puisqu'il y en a plusieurs et donc différentes choses, hein, que ce soit aussi bien de l'archéologie, on parlait des émotions tout à l'heure, alors je suis en train de regarder en même temps le programme, on parle même de spéléologie, d'énergie aussi, qu'est-ce qui est peut-être le plus accessible quand on vient en famille? Est-ce qu'il y a des stands qui parlent un petit peu plus, qui sont plus accessibles?
Alors au niveau du village des sciences, l'idée c'est d'être vraiment accessible au plus grand nombre, donc globalement, peu importe son âge, on va y trouver son compte. Les porteurs et les porteuses de projets adaptent leur discours à leur public. Après, c'est plus par rapport aux thématiques. Certains ou certaines vont être plus sensibilisés à la nature et du coup vont plus aller vers les stands du CIN, par exemple, ou de la Cité du Lait. Et d'autres vont être plus portés sur les nouvelles technologies et vont plus aller vers l'Institut des Arts et Métiers ou vers les associations de l'ESTACA. Tout dépend vraiment de l'appétence de chacun et de chacune pour telle ou telle thématique. Mais tous les publics peuvent y trouver leur compte sans problème.
Est-ce que justement il y a des temps forts pendant ce village des sciences où l'idée c'est vraiment que les associations soient disponibles pendant vraiment tout le week-end, samedi et dimanche, toute la journée compris?
C'est vraiment l'idée, c'est que pendant la durée du village, donc du samedi début d'après-midi au dimanche fin d'après-midi, les porteurs et porteuses de projets soient là, puissent répondre aux questions, puissent échanger avec les publics. Et en termes de temps fort, je ne sais pas si on peut dire que c'est un temps fort, mais pour les 30 ans, sachez qu'on a mis un petit photobooth au niveau du village des sciences, l'idée étant que chacun et chacune puisse aussi repartir avec un souvenir de la journée, plus ou moins sérieux évidemment.
En tout cas, ça, ce sera à disposition effectivement toute la journée. Il y aura ce village des sciences aussi qui sera proposé, alors non plus pour le grand public, mais là pour les scolaires la semaine suivante. C'était un temps fort qui avait été annulé l'année précédente. J'imagine que là aussi, c'est important de pouvoir vraiment là s'adresser aux scolaires directement.
Alors tout à fait. Là, c'est un autre village des sciences pour le coup qui lui est porté par le lycée d'Orion d'Evron et qui propose depuis des années et des années un projet. Ils ont été labellisés Village des Sciences il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, on était très déçus parce que l'année dernière, suite à la situation sanitaire, ils ont dû annuler. Et là, cette année, ça y est, ils sont de nouveau là et ils proposent de nouveau plein de stands en lien avec la thématique nationale, l'émotion de la découverte. Et c'est pas réservé aux scolaires. Vous pouvez aussi, le grand public peut aller le voir, c'est en semaine, mais on vous le conseille vivement.
Donc là aussi, autant pour moi, c'était bien ouvert au grand public, temps fort donc, le 7 et 8 octobre au lycée d'Orion à Évron, un autre village des sciences. Donc beaucoup de propositions aussi cette année. L'idée, c'est de pouvoir toucher un public très large, public familial, les tout petits, qu'ils reviennent après. Quel est l'objectif vraiment de cet événement dans l'année pour vous, musée des sciences en tout cas?
Alors pour nous, en tant que centre de culture scientifique et du coup porteur de cette manifestation, on a envie que les gens se sentent concernés vraiment par les sciences, puisqu'on vit dedans, ce que je disais tout à l'heure, et aussi que le public se rende compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 3, 4, 5, etc. pour comprendre justement des notions scientifiques, qu'on est tous et toutes capables d'avoir ces notions. Après, évidemment, tout dépend de comment on nous les fait passer, c'est ça qui est très important, et c'est pour ça qu'on compte sur les porteurs et porteuses de projets pour y arriver et chaque année, ils ne nous déçoivent pas.
Donc, ils seront au rendez-vous aussi cette année. Justement, comment on fait pour intéresser le plus grand nombre et peut-être un public qui a moins l'habitude? En tout cas, Guillaume, est-ce qu'il y a des petites techniques, des petites choses qui sont mises en place sur cet atelier au Village des Sciences pour s'adresser vraiment à un public très large?
Ah bah oui, et la technique principale qu'on utilise, c'est comprendre par l'expérimentation. Donc, au départ, il y a des petites consignes pour faire expérimenter quelque chose, une expérience, un petit défi. Et ensuite, les explications, elles n'arrivent qu'une fois que l'expérience a été réalisée par le public. Donc, ils peuvent en fait participer activement au stand. Je ne fais pas, et ma collègue non plus, que expliquer des choses. Au contraire, on laisse faire le public essayer les expériences ou les défis. Et ensuite, on explique ensemble, on essaye de comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé. Et donc ça marche notamment très très bien avec les illusions, parce que l'objectif c'est d'essayer d'avoir notre cerveau, d'essayer de trouver les limites de notre cerveau. Donc comme on a toutes et tous un cerveau différent, bah, je laisse faire et laisse découvrir le public ses propres limites.
D'accord, c'est vrai que ça fait un thème qui fait vraiment penser à la magie. Alors j'imagine que vous n'êtes pas magicien, mais du coup c'est ce que ça évoque en tout cas. On est bien loin d'un cours, on va dire, qu'on peut imaginer en tout cas rébarbatif de science. Alors voilà, ça fonctionne comme ça, etc., etc. Là, l'idée c'est justement de casser ça au maximum.
Ah oui, et en plus la magie est très liée aux sciences aussi, hein, parce que justement la magie utilise les limites du cerveau. Et ça peut s'expliquer par les sciences. Donc on va utiliser, on a fait l'année dernière un stand sur la magie et les sciences, on faisait des petits tours de magie et ensuite on expliquait le phénomène scientifique derrière. Donc on essayait de lier les deux thématiques.
Donc j'imagine que forcément comme ça, ça fonctionne beaucoup mieux et on retient mieux peut-être aussi, c'est l'objectif?
C'est totalement l'objectif, ouais.
Donc on va voir si ça fonctionne, mais je n'ai pas trop de doute là-dessus avec donc le Village des Sciences ce week-end. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça, je vous l'ai dit. Alors, je ne veux pas lister tous les événements qui sont programmés, mais il y a quand même deux belles conférences qui sont là aussi proposées cette année. Une conférence de nouvelles là aussi à propos du genre qui sera proposée par Elisabeth Roman. Ce sera le 7 octobre, c'est ça. Alors justement, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, Claire, sur cette conférence?
Oui, tout à fait. Donc jeudi 7 octobre, comme vous le disiez, c'est Elisabeth Roman qui a fondé un magazine qui s'appelle Chica, qui est un magazine d'empouvoirment pour les jeunes gens et en particulier pour les jeunes filles, et qui vient nous faire une conférence ludique. Elle le précise bien, puisque c'est une conférence qui est tout à fait accessible aux enfants. À partir de 7 ans, il n'y a aucun souci. Et l'idée, c'est de parler des injonctions faites en fonction du genre, donc dès la naissance, aux petits garçons et aux petites filles, et à comment se détacher justement de ces injonctions pour éviter d'y être soumis au final. Et vraiment, alors je prêche pour ma paroisse, hein, bien sûr, mais on vous conseille vivement cette conférence, elle promet d'être vraiment super.
Donc ça, c'est complètement une nouveauté cette année, accessible pour les plus petits, c'est ça?
Tout à fait, accessible pour les plus jeunes, et puis une conférencière que nous n'avons encore, jamais eue et qu'on accueille au Zoom, on en est très très contents.
Donc ça, ce sera le 7 octobre au Zoom, effectivement. Et puis une autre conférence, toujours au Zoom, mais là, le samedi 9 octobre, là, d'un conférencier déjà un petit peu plus habitué.
Tout à fait. Donc c'est Frédéric Rosard qui, comme vous le dites très bien, est un habitué de la fête de la science, mais qui, pour le coup, propose des conférences différentes chaque année. Et cette année, c'est sur les curiosités mathématiques. Alors, pour vous donner un exemple, c'est par exemple, est-ce qu'on a vraiment tous un sosie dans le monde? Qu'est-ce qui fait que parfois, on va voir une personne et se dire « Ah bah tiens, je connais cette personne, je l'ai déjà vue ». Non, c'est une autre personne, il y a des explications derrière tout ça.
Donc même lors des conférences, finalement, l'idée c'est aussi de pouvoir illustrer au maximum?
Ah oui, complètement, oui. C'est, pour le coup, j'en ai vu quelques-unes des conférences de Frédéric Rosard et elles sont tout à fait ludiques aussi, très accessibles, à partir de 8 ans, je pense, sans aucun problème. Non, c'est un très bon conférencier. C'est pour ça qu'on le réaccepte tous les ans, on en est très très content.
Il vient donc à chaque fois proposer une nouvelle conférence, vous l'avez compris. Cette fois-ci, ce sera sur quelques curiosités mathématiques. À la découverte de ces curiosités mathématiques, c'est l'intitulé de la conférence. Et puis l'idée, bien sûr, c'est que là, on a parlé de toutes les animations qui avaient lieu à Laval. avec le Village des Sciences à Évron, mais il y a aussi d'autres animations ailleurs dans le département proposées par les partenaires. Comment c'est organisé à chaque fois ?
C'est exactement ça. L'idée, c'est de toucher le plus de public possible, de s'adresser à tout le monde, et donc pas uniquement au public lavallois ou proche Laval. On a aussi, du coup, des porteurs de projets qui sont à Mayenne, qui sont à Jublin, à Pré-en-Paille, à Sainte-Suzanne-et-Cham. Et voilà, qui du coup propose aussi, et pareil, tous les ans, c'est des habitués, des projets toujours plus géniaux les uns que les autres, en fait.
Et si on veut retrouver justement le programme en entier, puisque là, on n'a pas pu parler de tout pour le programme de cette fête de la science, où est-ce qu'il faut aller ?
Alors, vous pouvez aller soit sur le site internet des Pays de la Loire, si vous voulez voir ce qui se passe dans les autres départements aussi, hein, donc faites de la science Pays de la Loire, vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous tombez dessus sans problème. Et sinon, c'est le site du Zoom, donc www.zoom.laval.fr. Et là, vous avez tout le programme de la fête de la science, y compris pour les scolaires, qui vous sera proposé.
Sachant que, on rappelle, pour le Village des Sciences, en tout cas, on peut venir de manière libre. Et c'est le cas pour beaucoup de conférences où il faut s'inscrire ?
Alors, il y a beaucoup de projets, la plupart d'ailleurs, qui sont sur inscription. Tout simplement pour des questions de logistique. Après, donc, tout est précisé dans le programme. Pour ce qui est du Village des Sciences de Laval, je précise, là, l'entrée est libre et gratuite. La seule contrainte, ça va être la présentation du pass sanitaire et du masque à partir de 12 ans, puisque le 30 septembre, nous passons, donc aujourd'hui, demain, nous
demain.
Passons, effectivement, nous passons au pass obligatoire pour les 12 ans et plus. Donc, la seule contrainte, mais sinon, gratuit, entrée libre, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir.
C'était justement ma dernière question. S'il y en a qui hésitent, qui disent « Oh, les sciences, c'est pas pour moi, ça me parle pas », est-ce que vous auriez un mot, une phrase à leur dire, quelque chose ?
Bah, c'est l'idée de la fête de la science, c'est de leur prouver le contraire.
Guillaume, peut-être ?
Et qu'on réussit toujours à comprendre d'une manière ou d'une autre.
Donc en tout cas, là, le pari est lancé. Vous comprendrez tout ce que vous verrez ce week-end si vous venez au Village de la Science ou même sur les autres animations de cette fête de la science, de cette 30e fête de la science ici en Mayenne. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour justement nous en parler et nous donner envie, en tout cas susciter la curiosité sur ces différentes animations.
Merci.
Et on va faire une petite pause, nous aussi, justement une petite pause musicale avec Al Jay, Breeze Blocks, et on revient d'ici quelques minutes avec Swazik.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down our weeds, build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
Please don't go, I love you so, I love you so.
Lox dans l'agité du local. Et tout de suite, comme là aussi promis juste avant la pause musicale, on retrouve Soizic pour une nouvelle chronique enfin en studio. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie, ravie de vous retrouver pour de vrai en studio à Laval.
Et alors aujourd'hui, vous nous proposez une chronique, donc toujours un autre écho de l'écho. Cette année, on repart sur la même thématique, mais vous nous dites un constat qui fait un petit peu peur, on est foutu, on mange trop.
Eh oui Marie, je vais commencer cette nouvelle année radiophonique en apportant une pierre personnelle aux différentes polémiques autour de la Covid. Sauf que mon interrogation ne date absolument pas de la pandémie, même si elle a contribué à la renforcer bien sûr. Alors en effet, je me pose une question. Alors que l'on sait pertinemment que quasiment la moitié des décès dus à la Covid sont liés au surpoids et à l'obésité, comment se fait-il que nous n'ayons aucun message de prévention ? Au même titre que nous avons d'ailleurs toutes les heures, sur toutes les radios, le rappel des gestes barrières, de l'importance de l'aération ou des bienfaits du vaccin. Pourtant, d'après l'OMS, donc les sources sont fiables, sur les 2,5 millions de décès par Covid-19 recensés fin février 2021, plus de 2 millions se sont produits dans des pays où plus de la moitié de la population est en surcharge pondérale. Au Royaume-Uni, 3 patients sur 4 atteints de formes sévères étaient en surpoids ou obèses. Et pourtant, dès avril 2020, The Lancet, donc excusez-moi quand même pour la source, faisait le lien entre la mortalité Covid-19 et la consommation de boissons sucrées. Alors je vous invite à aller sur le site de Santé publique France, vous verrez un nombre de publications incroyables, traitant pourtant de cette relation entre surpoids et obésité et complications de la Covid. Plus généralement, l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 30, concerne en France 17% des adultes. À l'échelle mondiale, le nombre de cas a triplé depuis 1975 et concerne aujourd'hui plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents.
Mais finalement, Soizic, c'est l'obésité qui devrait être déclarée à elle toute seule pandémie mondiale.
Mais c'est exactement là où je veux en venir. Et comment se fait-il donc qu'il n'existe pas de prévention contre cette maladie ? Alors bien sûr, on est d'accord, il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser les personnes en surpoids ou obèses. Pas de grossophobie dans mes propos. En revanche, il s'agit juste de constater que là où on a considéré que fumer était un problème de santé publique, et à raison, on ne considère pas l'obésité de la même façon. Et pourtant, imaginez que l'on prenne, si je puis dire, le taureau par les cornes avec le même type de prévention que celle faite sur les paquets de cigarettes. Je peux vous dire que le monde changerait radicalement. Et en plus, rien de plus simple. Alors, je m'explique. Il s'agirait d'abord de calquer la prévention contre le tabac et donc de décourager la consommation de sucre et de gras. Imaginez, on aurait des paquets de bonbons affichant des photos de ces enfants tellement malades, car en surpoids, qu'ils ne peuvent plus se déplacer. On aurait des personnes aveugles pour cause de diabète sur les bouteilles de soda. Et on aurait peut-être des bandeaux noirs sur les emballages des McDo avec écrit en gros « la malbouffe tue ». Ça, ce serait vraiment le monde d'après. Et puis autre chose, l'État pourrait taxer ses produits, comme c'est le cas pour le tabac, ce qui lui permettrait d'engranger ce qu'on appelle en économie un double dividende. D'une part, la hausse du prix des produits entraînerait une diminution de la consommation et par conséquent une réduction du risque sanitaire. Et donc des dépenses de santé, et d'autre part, l'État augmenterait ses recettes. Enfin, une généralisation du Nutri-Score informerait en toute transparence le consommateur.
Mais alors pourquoi les pouvoirs publics ne s'emparent-ils pas de cette question si c'est aussi simple ?
Vous l'avez bien dit Marie, c'est parce qu'on retrouve là à nouveau toute la problématique du monde d'après. Et c'est tellement vertigineux que finalement, on préfère garder le monde d'avant, quitte à en tomber malade. Je vous donne quelques chiffres pour mieux comprendre. Le marché alimentaire mondial, c'est un chiffre d'affaires de 2 fois le PIB de la France. Les confiseries et les snacks, c'est le segment le plus important, 20% du marché. En France, rien qu'en France, c'est 400 000 emplois. Un excédent commercial de quasiment 8 milliards d'euros. Beaucoup de chiffres, mais malheureusement, on ne comprend pas si on n'a pas ça. Alors vous voyez, la bête est grasse, comme on dit. Et donc, comment compenser cette perte de ressources pour un pays ? Comment compenser les centaines de milliers d'emplois détruits ? Et comme on ne veut pas réfléchir à long terme, eh bien on préfère continuer comme avant. D'autre part, comme les entreprises du secteur doivent être les plus compétitives possibles pour faire ingurgiter de plus en plus de sucre et de gras aux consommateurs, vous comprenez bien qu'elles s'évertuent à diminuer encore et encore leurs coûts de production, mais au risque d'accroître les effets négatifs sur l'environnement et la sécurité alimentaire. Enfin, the last but not the least, comme on dit, pour être sûr que le message, non pas de prévention, mais d'incitation à la consommation passe bien, les entreprises dépensent aujourd'hui jusqu'à 15% du prix final de leurs produits dans la publicité, davantage que dans l'achat de matières premières. Alors voyez-vous, en cette rentrée, je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, Maria, mais alors vraiment pas du tout. Pourtant, alors que Jacques Chirac disait que notre maison brûlait et que nous regardions à côté, eh bien là, j'ai vraiment l'impression que nous regardons l'incendie droit dans les yeux en attendant très paisiblement que la maison soit complètement carbonisée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur Arte, hein, le reportage qui s'appelle « Un monde obèse » et vous verrez comment finalement la pandémie d'obésité, et alors, et non pas orchestrée, mais en tout cas ignorée des pouvoirs publics et des entreprises parce que derrière, il y a tellement d'intérêts économiques.
Merci beaucoup, Soizic, pour cette chronique et même cette recommandation. Si là aussi, on veut aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet. La chronique, je rappelle, donc, sera à réécouter dès cet après-midi en podcast sur l'autreradio.fr. Et puis, on vous retrouve pour une nouvelle chronique. Ce sera mercredi dans 15 jours.
Exactement.
Merci beaucoup, Soizic. Merci, bonne journée. Et puis, on retrouve évidemment là aussi notre feuilleton cette semaine au Grenier à Majdaillé. Au Grenier, donc, un lieu de vie collectif depuis 2018 avec un espace commun et un espace ouvert au public, le Grenier. Justement, où différents ateliers sont organisés. Et les membres de l'association le veulent ouvert aux habitants et aux habitants de Rouillé-Froidfond et des alentours. Le but, c'est que ce soit le plus participatif possible. C'est une dimension très importante pour Sophie, qui fait partie de cette association, le Grenier.
C'est vraiment l'idée de proposer un lieu collectif, mais du coup, pour nous, ça nous semble logique. Nous, on a mis les fonds à la base. Après, ça nous semble logique que dès qu'on a besoin d'un petit coup de main sur des chantiers collectifs, eh ben, tout le monde puisse s'approprier en fait ce chantier. Pour l'instant, oui, on a trois activités, enfin il y a trois soirs dans la semaine qui sont pris et régulièrement des week-ends ou des bouts de week-end, hein, c'est pas forcément des week-ends entiers. Moi, quand je propose des ateliers, c'est le dimanche et ça prend dimanche toute la journée. Pour nous, c'est quelque chose qu'on doit doser entre, parce que ça reste aussi un lieu de vie, donc que ça soit pas le défilé de voitures tout le temps. Donc c'est un équilibre à trouver entre pouvoir accueillir les activités sans se sentir vivre sur le parking d'une salle polyvalente, quoi. Mais pour l'instant, on en est très loin. Pour l'instant, on a commencé beaucoup sur du bouche à oreille, donc pas mal de gens connus d'avance, enfin en tout cas des réseaux proches de nous. Notre objectif à terme, ce serait justement de faire participer, de faire venir des gens plus localement, donc des habitants de Rouillé-Froidfond ou Villiers-Charlemagne, des communes aux alentours. Ce qu'on a assez peu fait du fait de ces histoires de Covid, parce qu'à un moment donné, on s'est senti très fragile. C'était compliqué pour nous de jouer avec les protocoles sanitaires. Et on n'avait vraiment pas envie d'avoir l'image de ceux qui font des activités n'importe comment ou qui s'en fichent du contexte sanitaire. Donc on est resté un petit peu dans notre zone de confort avec les gens qui savent comment ça se passe ici, qui sont OK avec la manière dont ça se passe ici. Mais à terme, on aimerait vraiment beaucoup pouvoir faire venir les habitants du coin et faire la communication en fonction. Ce qui va demander un petit peu de boulot, mais c'était quand même à la base aussi le projet. Parce qu'on voit bien qu'en fait un lieu collectif comme le nôtre peut être, si on ne le connaît pas, perçu sous un mauvais œil ou en tout cas avoir, qu'il puisse avoir des craintes par rapport à ce lieu ou de l'incompréhension. Donc notre point fort dans l'idée, ce serait vraiment justement de pouvoir faire venir et de montrer que en fait ici tout va bien, que ce sont des gens normaux qui vivent de manière normalement. Ils ont des maisons un peu différentes, mais donc c'est vraiment ça notre envie. Alors on a la chance d'avoir une mairesse à Rouillé-Froidfond qui est très ouverte. Quand on lui a parlé de yourte et de roulotte, elle a dit ah super. Elle, et je trouve ça vraiment très juste, tout ce qu'elle veut, c'est que sa commune vive. Donc plus les gens viennent, plus elle est contente. Non, c'est plus des expériences qu'on nous a relatées, en fait, d'autres lieux collectifs qui ont eu des problèmes avec le voisinage ou leur mairie, jusqu'à même faire fermer le lieu, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait éviter à tout prix, parce que plus la communication est ouverte entre les habitants et l'entourage, je pense, plus on va pouvoir trouver un endroit de compréhension, en tout cas, et d'ouverture.
Plus d'informations sur les ateliers proposés et l'ADN du lieu sur leur site legrenier53.org. Et puis évidemment, on ne s'arrête pas là, il y aura un quatrième épisode dédié au grenier à Majdaillé demain. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi 29 septembre. À suivre à l'antenne, il y aura à 19h Novorama, suivi à 21h de Déclectique Jazz avec Thomas de Pourquery. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous donne rendez-vous à 12h15 demain. Et donc d'ici là, portez-vous bien.